Cette semaine, Anaëlle Pijat rencontre Alain Fleischer. Ce soir, image revenante.
Bonsoir Alain Fleischer.
Bonsoir.
Hier, nous avons parlé de votre vie de cinéaste, d'auteur de fiction, de documentaire. Parmi vos activités multiples d'écrivain, d'artiste, de directeur fondateur du Frénois Studio National des Arts Contemporains, où vous nous accueillez ce soir à nouveau, l'image, dans toutes ses acceptions, occupe une place centrale. Alain Fleischer, vous êtes aussi un photographe très reconnu. C'est justement de photographie et aussi de vos installations que je voudrais que nous parlions aujourd'hui, de ces travaux qui ont été souvent exposés. Dès 1982, vous avez eu une rétrospective à la Maison de la Culture de Saint-Étienne. En 85, à l'abbaye Sainte-Croix des Sables-d'Olonne, qui était à l'époque un lieu, enfin qui est toujours, mais qui était à l'époque un lieu très important. Vous avez une grande rétrospective à la Maison européenne de la photographie en 2003. Votre travail a été montré autour du monde, à Pékin, au Brésil, à Cuba, en Argentine. Et puis très récemment, vous avez eu aussi une exposition au Centre d'art d'Enghien-les-Bains en 2017, à l'Hôtel des Arts à Toulon en 2018. Alain Fleischer, vous avez coutume de dire qu'enfant, vous faisiez des poèmes et des photographies, mais que la maturité vous est venue plus vite en images qu'en mots.
Absolument. Même si la littérature était mon projet principal quand j'étais gamin, c'est par la photographie que j'ai commencé, en empruntant d'ailleurs un appareil photo à mon père, un très bon appareil. Mais en même temps, j'avais emprunté sa machine à écrire à ma mère. Et la machine à écrire, une petite histoire, parce que j'ai commencé par faire beaucoup de piano entre l'âge de 5 et 10 ans. Et puis un jour, quand je suis entré au lycée à 10 ans, mon père a dit « Bon, on arrête la musique. » Il supportait pas les séances de répétition le soir où je faisais des gammes. Il a vendu le piano. Il m'a dit « Maintenant, il faut être sérieux, latin, grec, maths, etc. » Donc, il a revendu le piano. Et à ce moment-là, j'ai demandé à ma mère de me donner sa machine à écrire. J'ai trouvé un autre clavier. La machine à écrire était pour moi une sorte de piano. Alors, sur cette machine à écrire piano, j'ai composé des petits poèmes où j'écrivais des contes qui étaient extrêmement naïfs, qui étaient des textes très puérils. Alors, ceux-là ne sont pas présentables. J'étais même sûrement moins bon encore que Minou Drouet, la fameuse enfant prodige de l'époque. Par contre, les photos que je faisais en empruntant l'appareil de photo de mon père, je pourrais encore les présenter. Elles me semblent présentables. C'est-à-dire que j'avais acquis beaucoup plus vite une maturité de maîtrise de l'image que dans le domaine de la langue et de l'écriture. C'est une question qu'on peut se poser en général. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'on arrive plus vite à maîtriser l'image qu'à maîtriser les mots? En tout cas, ça a été mon cas. Je le répète, les photos que je faisais à l'époque, je n'exclus pas de les publier un jour comme des photos de jeunesse, alors que les textes, c'est hors de question. Enfin, les premiers textes que j'ai écrits qui me semblent regardable ou acceptable encore aujourd'hui, je les ai écrits beaucoup plus tard, vers 20 ans ou 20 ou 22 ans. Donc l'image a compté beaucoup pour moi. À vrai dire, mon rêve, toujours pour les mêmes raisons, parce que j'aimais beaucoup les filles, c'était devenir photographe de mode. J'ai fait des photos de mode finalement, mais très tardivement, mais j'ai réalisé ce rêve. C'est d'ailleurs une discipline extrêmement difficile, c'est ce que je connais de plus difficile, la photo de mode. Mais j'ai commencé en réalité à explorer le domaine de la photographie dans deux champs. D'abord, l'expérimentation sur la lumière, les compositions d'objets, et puis sur la notion de portrait et d'autoportrait. Le premier modèle disponible étant soi-même, j'ai fait beaucoup d'autoportraits, bon, qui flattaient aussi la dimension narcissique de la chose, mais j'ai beaucoup interrogé ça. L'appareil photo comme miroir, et aussi l'appareil photo comme façon de voir le monde. C'est-à-dire que c'est à travers l'appareil photo que je voyais les choses, que je les composais, que je les faisais ressemblantes à ce que j'avais envie qu'elles soient. Donc j'ai beaucoup expérimenté en photographie dès cette époque. Je m'intéressais assez peu à la photographie de rue ou de reportage, même si j'ai eu tout de suite une grande admiration pour Cartier-Bresson. Mais c'était une photo qui me semblait peu inventive, trop vite contente d'elle-même. Et j'ai expérimenté beaucoup. J'ai commencé à travailler avec des miroirs, avec des objets. Je photographiais mes jouets. Je travaillais sur la notion d'échelle, d'éclairage, de trucage de l'image. Bon, donc voilà. Ça m'a beaucoup appris sur le statut de l'image. Évidemment, à l'époque, c'était la photo argentique. Et le support argentique est essentiel pour comprendre ce que c'est qu'une photographie, ce que c'est que l'empreinte photographique. ce que aujourd'hui les gens ignorent, puisqu'ils appuient sur un bouton, un appareil photo numérique, et c'est très très différent.
Parmi les grands photographes que vous avez beaucoup regardés, il y a André Kertész, Brassai, Laszlo Molina, il y a beaucoup de Hongrois. Comme si la photographie était pour vous liée à l'idée des origines.
En effet, je retrouvais quelque chose des origines dans la fréquentation de ces photographes à travers un langage que je pouvais comprendre puisque la photographie, elle ne parle pas hongrois, elle parle le langage des images. Et je retrouvais la Hongrie et cet univers de l'origine à travers des gens qui s'exprimaient en images. Alors Kertész m'a intéressé, encore que uniquement dans ses parties les plus expérimentales. Mais Laszlo Molina m'a passionné, Brassai aussi. Et oui, j'ai reconnu peut-être une famille dans ces photographes, une façon de regarder le monde, une façon de travailler sur les images.
Dans vos premiers travaux photographiques, il y a un certain nombre d'images dont on a l'impression qu'elles sont prises au vol, un peu comme un bloc-notes photographique. Vous parlez, je crois, de collecte du visible. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à faire aujourd'hui, cette pratique-là de la photographie ?
Oui, ça reste une pratique absolument occulte, mais je continue à photographier tous les jours. Ça m'est même indispensable. Et notamment les jours où je suis pas très en forme, où j'ai un peu le cafard, il suffit que je commence à faire des photos pour que tout aille bien à nouveau. C'est très important, cette pratique de la photographie quotidienne. Mais il est vrai que j'ai commencé par la collecte. C'était la photographie la plus simple à faire. Quand je dis commencer, c'est donc après la période de l'enfance que j'évoquais tout à l'heure. La période de l'enfance, c'est autour de l'âge de 7, 8, 10 ans. Ensuite, quand j'ai eu pour la première fois un appareil de photo professionnel, c'est vers l'âge de 18, 19 ans. Là, j'ai commencé à collecter ce qui me semblait saisissable uniquement par la photographie. J'ai toujours aimé utiliser les différents moyens d'expression pour ce que eux seuls pouvaient me donner. Alors, par exemple, j'avais découvert ces sortes de chiffons ficelés des caniveaux parisiens que les éboueurs utilisent pour orienter l'eau des caniveaux. Et là, c'était des choses qui me fascinaient, qui me semblaient belles comme des corps, comme des cadavres. Et puis, il y avait aussi des souvenirs dedans. Il y avait des vêtements récupérés, on reconnaissait des jupes, des blouses, des pantalons, des chemises. Bon. Donc j'ai trouvé ces objets très émouvants et j'ai commencé à collectionner ces objets trouvés dans les caniveaux parisiens et nouvelle géographie de Paris. J'ai arpenté tous les quartiers où j'en trouvais. Il y a des quartiers où il y en avait plus ou moins, d'autres où il n'y en avait pas. Et j'ai constitué une collection de peut-être un millier de ces objets photographiables et collectionnables par la photographie. Après, bon, je me suis beaucoup intéressé aussi à tout ce que la photographie pouvait saisir et capter, comme par exemple tous les quartiers de Paris qui ont été en démolition et en reconstruction. Je me souviens le quartier de Montparnasse et d'autres quartiers. J'allais beaucoup dans les chantiers, je photographiais les traces d'appartements détruits, les choses qui étaient restées au mur, les empreintes d'un escalier, d'un meuble, une affiche ou une photo restée collée à un mur. J'ai beaucoup collectionné tout ça aussi. Donc la photographie, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, mais est aussi effectivement un moyen de collectionner le visible, de le collecter.
Et puis il y a un moment où on a l'impression que votre travail photographique bascule de cette collecte du visible à quelque chose qui relèverait davantage de la collecte de l'invisible.
Tout à fait, et les deux choses sont liées. Parce que par exemple, au chapitre de la collecte du visible, j'avais photographié à une époque toutes sortes de murs en ruine, de portes rouillées, de morceaux de bois, d'écorce d'arbres. Bon, ça constitue en soi une collecte d'objets, vernaculaires, je dirais. Et un jour, avec cette même jeune femme avec qui je vivais, la comédienne de Dehors Dedans, j'ai eu envie de projeter ces images que j'avais saisies en diapositive sur son corps. Donc un corps était habillé par des images. Mais c'est ces images qu'il habillait qui en même temps le révélaient, le dénudaient. Et donc le corps habillé de ces images était plus nu que nu. Et j'ai commencé à travailler à ce moment-là sur cette propriété qui ensuite j'ai beaucoup explorée dans la photographie d'être une image projetable. C'est le premier usage que j'ai fait de cette propriété particulière à la photographie.
Avant d'en venir à cette dimension projetable de vos images, je m'interrogeais sur la manière dont vous travaillez vos photographies. Est-ce qu'au fond, c'est l'instant décisif qui vous intéresse ?
Alors, pas du tout. C'est bien que vous me posez cette question parce que je travaille sur un temps sans instant. Il n'y a pas d'instant décisif pour moi. Dans mon travail d'aujourd'hui, en tout cas depuis maintenant beaucoup d'années, je travaille sur des dépôts de temps. Et donc, il n'y a pas d'instant dans ce temps-là. C'est simplement un temps qui se déroule comme le temps du cinéma, sauf qu'au lieu d'être capté sur une série d'images qui ensuite vont défiler à 25 images par seconde, si on parle du cinéma traditionnel, se dépose sur une seule image, donc sur une seule surface. C'est un temps sans instant. L'instant décisif, j'y crois plus ou moins. Enfin, il est vrai que quand on fait ce genre de photographie en saisissant le réel en mouvement, il y a un moment où c'est mieux qu'à un autre d'appuyer sur le bouton. J'imagine que, par exemple, les reporters sportifs, quand ils filment un but, il faut qu'ils filment le moment où le ballon entre dans la cage de but. Mais ce n'est pas ça qui compte pour moi, en fait, dans l'image. C'est pas l'instant capté, c'est justement du temps qui se dépose. Donc ce sont des photographies travaillées, en fait, comme du film, sauf que tout se dépose sur une seule image, sur une seule surface. Et donc, tout ce dépôt, il sera visible instantanément. L'instantané n'intervient qu'au moment de la perception de ce qui, en fait, a été un dépôt de durée. Une photographie du genre de celle que je fais, qui sont des enregistrements de traces qui se sont déroulées sur plusieurs secondes et qui ont déposé donc cette traînée, parfois cette traînée lumineuse. Ensuite, quand l'image est révélée, on l'aperçoit instantanément. Une photo, c'est comme un tableau. On le perçoit instantanément, d'un seul coup d'œil. Même si ensuite, le temps revient pour la lecture d'un tableau. Hein, si vous regardez l'embarquement pour Cythère de Watteau, vous pouvez le découvrir d'un seul coup d'œil et voir en gros de quoi ça parle, mais ensuite, pour voir vraiment le tableau, il faut le lire. Donc il faut reparcourir le tableau, la suite de personnages, etc. Une photo, c'est pareil. D'ailleurs, Barthes a magnifiquement théorisé ça avec son histoire de punctum et de studium, donc la façon dont l'œil parcourt une image. Même une image instantanée, elle est parcourue dans un temps qui fait aller de son ensemble à un détail, d'une perception générale à ce qui attire l'œil. L'instant décisif, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi, et au contraire, j'aurais envie de théoriser inversement sur un temps sans instant.
Ce temps sans instant a aussi un fort rapport avec l'idée de la mémoire. Vous parliez de cette notion d'empreinte qui se matérialise dans le sujet même d'une série de photographies que vous avez faites, qui sont des masques faits avec du papier d'argent, avec du papier d'aluminium. Je me demandais si dans ce rapport à la mémoire, vous étiez un lecteur de Proust, Alain Fleischer.
Moi, je suis un grand lecteur de Proust, oui, enfin grand. J'ai beaucoup lu Proust quand j'étais adolescent. C'était un univers qui me fascinait, une langue qui me fascinait, une écriture. Mais je ne sais pas si je pourrais mettre ça en regard avec ma relation à la photographie. En tout cas, la photographie, elle a été souvent associée, notamment par Christian Boltanski, à l'idée de mort, puisque tout ce qui est photographié, l'instant d'après, déjà n'existe plus. Vous photographiez deux personnes qui s'embrassent dans la rue, comme l'a fait Doineau, l'instant d'après, ils ne sont déjà plus là, ils sont ailleurs, ils ont disparu. Cet aspect-là est incontestable, donc la photographie est forcément liée à l'idée de la mort, de la disparition. Mais ce qui m'intéresse plus et que j'ai beaucoup plus exploré, c'est l'idée de l'image qui revient, de la capacité de la photographie à faire revenir les gens, l'image revenante, l'image de la réapparition, reconvoquer le monde à travers la photographie. Et notamment à partir de cette propriété que j'évoquais rapidement tout à l'heure, de sa projectabilité. On a beaucoup glosé sur la reproductibilité de la photographie, c'est devenu un thème extrêmement discuté et étudié. Je suis beaucoup plus intéressé par le fait que l'image est projetable que par le fait qu'elle est reproductible en photographie. À la limite, quand je fais une photo, je m'en fiche qu'elle soit ultérieurement tirée à 200 000 exemplaires ou à 2 ou à 30, ça m'est complètement égal. Je fais une image. Donc le fait qu'elle soit reproductible n'intervient pas dans le processus de sa création et de sa conception. Par contre, qu'elle soit projetable est très important. C'est la première fois qu'une image, dans l'histoire des images, peut quitter son support pour apparaître n'importe où. La peinture, elle reste collée à la toile ou au mur, le dessin à la feuille de papier, la photographie, elle se décolle tout de suite de son support, même dans l'agrandisseur. Dans l'agrandisseur, l'image est projetée, le négatif est projeté sur une feuille de papier, donc il y a déjà un déplacement, un transport. Bon, c'est un dispositif dont le cinéma s'est emparé à tel point que c'est devenu le dispositif du cinéma, la projection. Le cinéma ne se perçoit qu'en projection. Mais la photographie aussi est projetable, elle l'a été bien avant le cinéma. Alors, en dehors des séances de diapositives de vacances que les gens se projetaient en famille, qui étaient en général des séances assez consternantes, il est intéressant de penser qu'une image se projette, peut apparaître n'importe où, peut devenir une lumière, que le monde peut être éclairé par des images. En fait, une diapositive projetée, non seulement elle projette une image, mais elle envoie de la lumière. Donc on peut arriver à un monde éclairé par les images, et c'est ce à quoi j'ai travaillé quand j'ai projeté des images de toutes sortes, sur divers supports, où elles sont apparues, et qu'elles ont en même temps éclairé. La projectabilité des images, si je peux me permettre ce néologisme, devient un des modes de sa reproductibilité. Elle est projetable, et donc, étant projetée, elle peut être refotographiée. Et donc, c'est une façon aussi d'être reproductible. En fait, à travers la photographie, tout est reproductible, puisque si vous photographiez une peinture, vous pouvez aussi projeter cette peinture, elle devient une image projetable. Tout ce qui est photographié devient projetable. En tout cas, j'ai beaucoup exploré ce dispositif de la projectabilité des images, que j'ai décliné de différentes façons, notamment en l'associant au dispositif du reflet. Par exemple, le miroir est capable d'intercepter une projection, de la réorienter, de la diffracter, de la diviser, de la morceler. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur l'association entre projection et réflexion.
Avec ces installations d'images projetées, au fond, on a l'impression de se trouver souvent devant des lanternes magiques.
On peut dire, en effet, vous avez raison de rectifier, la lanterne magique est la première image projetable. Mais c'est resté, je dirais, un genre anecdotique. Les lanternes magiques ont rarement produit des œuvres importantes.
Je voulais dire par là qu'avec ces installations photographiques, vous vous situez dans un temps qui serait un temps d'avant le cinéma, qui me semble donner à ces œuvres quelque chose de particulièrement fantomatique, ce qui rejoint l'idée des images revenantes dont vous parliez il y a quelques minutes.
Je ne sais pas si c'est un temps avant le cinéma. Bon, c'est avant le cinéma parce que ça ne bouge pas, même si ça garde la trace du mouvement. Dans mes images, il y a beaucoup de traces de mouvement. Mais je dirais que l'image photographique a été projetable avant les films de cinéma. Sauf que principalement, l'image photographique a été vue, perçue, regardée sous la forme de tirages, d'images en deux dimensions sur du papier ou imprimées. Le livre est un formidable support de diffusion de la photographie. J'adore les livres de photographie. Parfois, il y a même certains photographes qui ne gagnent rien à être exposés sur des murs. On les découvre aussi bien dans un livre. C'est d'ailleurs le cas de Cartier-Bresson. Une exposition de photos de Cartier-Bresson, ça n'apporte pas beaucoup plus que le feuilletage d'un bon livre d'images de Cartier-Bresson. Donc voilà, la photographie ne s'est pas appropriée ce mode de diffusion qu'est la projection, alors que le cinéma ne peut être regardé que comme ça, qu'en projection. Au point d'ailleurs que ce dispositif historique du cinéma a inspiré la vidéo. L'image vidéo, elle n'était pas destinée à être projetée, elle était destinée à être regardée sur un écran cathodique ou un écran plat aujourd'hui, mais si on a inventé le vidéoprojecteur, c'est pour imiter le cinéma. Et le vidéoprojecteur est un bricolage, en fait. C'est un bricolage où une image qui apparaît sur un écran est renvoyée comme une diapositive par un projecteur. Mais donc ça dit la force du dispositif de la projection cinématographique qui a réussi à inspirer un autre type d'image, une autre famille, l'image électronique, pour qu'elle soit diffusée aussi comme ça, aussi en projection.
Vous venez d'utiliser le terme de bricolage dans vos installations. Il y a aussi un certain nombre d'objets, parfois de jouets. Nous sommes ici dans votre bureau du Frénois. Il y a dans un coin un petit brise-glace, un jouet que vous avez utilisé à plusieurs reprises. Je me demandais, Alain Fléchère, si vous aviez aussi cette qualité de bricoleur.
Ah oui, je bricole beaucoup. En fait, par exemple, moi, je n'ai pas d'assistant. Il y a des artistes qui commandent leurs œuvres à des gens qui savent faire, qui ont toutes les techniques possibles et imaginables, et qui produisent des objets extrêmement aboutis. Moi, je n'ai pas d'assistant, je fais rarement appel à des collaborateurs, et je bricole. Et j'invente beaucoup en bricolant, j'expérimente en bricolant. Et parfois ça marche très bien, parfois ça rate, mais parfois ça marche très bien. Le petit bateau que vous évoquez, il m'a servi à animer les miroirs d'un bassin sur lesquels c'est des miroirs flottent. Ce petit bateau qui est donc un brise-glace, si on peut dire, fait bouger ces miroirs, et sur ces miroirs, je projette des photos, des diapositives, qui du coup sont renvoyées dans tout l'espace, sur les murs et au plafond, en mouvement, morcelées et en mouvement. Ce sont donc des images fixes qui bougent. Ce sont des images fixes parce qu'à l'origine, ce sont des diapositives, des photos, mais elles sont mises en mouvement par le mouvement des miroirs qui les renvoient sur les surfaces disponibles alentour. Et j'ai beaucoup utilisé des jouets comme source de mouvement dans les images et dans les installations. Les jouets, les petits bateaux, les jouets mécaniques qui remorquent des miroirs ou qui les font bouger. En vrai dire, les jouets mécaniques m'intéressent parce que je m'intéresse à tout ce qui a un mécanisme. Les caméras m'intéressent parce qu'elles ont un mécanisme. Ce qui me désespère dans une caméra d'aujourd'hui, c'est que rien ne tourne. Quand on dit aujourd'hui moteur, en fait, il n'y a pas de moteur. Tout s'imprime sur une carte mémoire qui est à la surface d'un timbre-poste. Plus rien ne bouge, plus rien ne tourne. Vous achetez chez un marchand d'appareils d'occasion une caméra qui n'a pas tourné depuis 30 ans, vous remontez la manivelle, ça tourne à nouveau. L'objet revit. Donc, voilà, j'aime beaucoup effectivement le bricolage, les objets mécaniques, les jouets. Les jouets et les poupées ne m'intéressent pas, mais par contre, tous les jouets qui ont un mécanisme me fascinent. Et ce que j'adore beaucoup, c'est tourner la clé et voir que ça recommence à vivre.
À présent, Alain Fleischer, j'aimerais que nous parlions de votre vision du monde de l'art. Sur les musées d'abord, votre première grande exposition remonte à 1982 au Centre Pompidou et au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. C'était formidable pour un jeune artiste à l'époque d'avoir des expositions dans des lieux si prestigieux. C'était facile à cette époque-là ?
Oui, c'était assez facile. À vrai dire, j'étais moi-même assez émerveillé puisque j'arrivais dans des lieux où j'étais allé voir des œuvres et tout d'un coup j'étais un artiste exposé. C'était aussi un lieu où je retrouvais ceux qui m'avaient devancé dans la carrière d'artiste, qui avaient commencé par être des artistes comme Sarkis ou Christian Boltanski, Annette Messager, Daniel Buren ou d'autres. Donc j'étais reconnu comme quelqu'un capable d'exposer dans les mêmes lieux qu'eux. C'était assez facile, comme d'ailleurs c'était assez facile de faire des films à cette époque. Les producteurs cherchaient de jeunes réalisateurs. Donc ça, j'étais heureux d'être là avec des amis, mais ça ne me semblait pas si merveilleux que ça. Enfin, ça avait été assez facile. C'est-à-dire que il avait suffi que je me fasse un tout petit peu connaître, que je montre des œuvres ici ou là pour que je sois sollicité et que ça s'enclenche en quelque sorte.
Vous avez aussi très tôt travaillé avec plusieurs galeries. Jean et Jacques Donghi, Claire Burrus, Léo Cher, la Galerie de France, la Galerie Françoise Paviot, la Galerie Michel Chaumette, à l'étranger également. Je m'interrogeais sur les liens que vous avez eus avec ces galeries, parce qu'au fond, Alain Fleischer, on a l'impression presque que vous pouvez travailler seul.
Je vais vous dire, à vrai dire, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de produire des œuvres. C'est ça qui m'occupe tout le temps, et je suis très peu concerné par la diffusion et la présentation de mes œuvres. C'est toujours quelque chose qui m'ennuie. Quand je prépare une exposition, que ce soit dans un musée ou dans une galerie, j'ai le rêve que la veille, il y ait un tremblement de terre et que l'exposition soit annulée. Ou que à la dernière minute, il y ait une panne de courant et que rien ne marche. C'est pas l'exhibition de ce que je fais, la monstration, mais la production de l'œuvre. C'est d'abord, l'œuvre, elle me regarde moi, c'est moi qui la regarde et c'est moi qui juge si elle est réussie ou pas. Donc mes rapports avec les galeries, bon, ils ont été fructueux parce que c'est les seuls moments où j'ai vendu un peu mes travaux. Ça n'a pas toujours bien tourné parce que beaucoup de galeries se payent avant de payer les artistes. Donc c'est un des problèmes d'ailleurs du marché de l'art et de la diffusion des œuvres pour les artistes. On peut être assez critique avec le fonctionnement de certaines galeries, mais enfin, elles ont l'avantage de créer une base de référence. Les gens savent que vous êtes dans telle galerie, donc ils viennent voir vos œuvres là. On vous fait des propositions d'exposition en passant par la galerie. Donc les galeries, elles jouent leur rôle et elles font souvent leur métier. Quand elles sont honnêtes, c'est encore mieux. Voilà, mais disons que c'est une satisfaction secondaire de voir mes œuvres présentées. Et c'est toujours assez difficile pour moi. Encore récemment, la préparation d'une exposition, bon, j'en ai fait une à l'Hôtel des Arts d'Enghien, qui m'a donné beaucoup de plaisir, avec des gens formidables. Mais toute la phase de préparation, j'avais du mal à y croire. J'avais l'impression que je perdais, en préparant une exposition, du temps que j'aurais pu consacrer à fabriquer de nouvelles œuvres. Et donc je suis dans une espèce de délire, hein, je dois l'avouer, qui est très inquiétant. C'est que je continue à produire beaucoup plus que je n'aurais jamais la possibilité de montrer. J'ai des centaines de milliers de photographies, je n'aurai jamais le temps de les voir. Elles sont développées, je n'aurai jamais le temps de les tirer, de les montrer, de les aboutir. Donc je vis souvent dans l'inachèvement et dans une certaine insouciance par rapport à la nécessité ou à l'intérêt de montrer.
Vous avez récemment écrit un roman, Effondrement, qui est un récit dans lequel une critique est perceptible, sous-jacente, mais extrêmement forte, du monde de l'art.
Pour être plus précis, je dirais du marché de l'art. Le monde de l'art est ce qu'il est. Au début, je l'ai adoré, je l'ai trouvé raffiné, amusant, cultivé, curieux de tout. C'est probablement dans le monde de l'art que j'ai rencontré des gens qui étaient aussi intéressés au cinéma, au théâtre, à la danse. Alors que les cinéastes sont généralement obnubilés par leur langage. Les cinéastes sont beaucoup moins cultivés que les artistes. Les cinéastes, ils vont rarement au théâtre, par exemple. Ou alors c'est pour voir des comédiens, ou ils vont rarement dans les musées. Alors que les artistes sont plus curieux. Donc j'ai beaucoup aimé le milieu de l'art, quand j'ai découvert en venant d'autres milieux. Et puis j'ai aimé le milieu de la littérature. Mais ce qui, aujourd'hui, me semble absolument insupportable, c'est le marché de l'art. C'est-à-dire de transformer l'art en marchandise et de spéculer sur la carrière des artistes comme sur des chevaux de course, ça me semble absolument consternant. Et je vois beaucoup d'artistes que je trouve médiocres atteindre des cotes sur ce marché de l'art absolument injustifiées, alors que de vrais bons artistes émouvants, importants, qui trouvent des choses, vivent médiocrement, ne vendent pas leurs œuvres, etc. Donc voilà, je suis assez critique envers ce monde de l'art et ces très grands collectionneurs multimilliardaires qui sont sûrs de ne pas se tromper. Or, la plupart du temps, ils se trompent. Par exemple, à l'époque des impressionnistes, les grands collectionneurs collectionnaient Meissonnier, Rosa Bonheur et Cabanel. Ils étaient sûrs de leur culture et de leur choix. Et ils n'achetaient pas Van Gogh ou les impressionnistes. Donc je pense qu'aujourd'hui se font les mêmes erreurs. Sauf que les collectionneurs d'aujourd'hui, le monde de l'art d'aujourd'hui, le marché de l'art d'aujourd'hui, pensent qu'il ne peut plus faire ses erreurs, qu'il détient la vérité, le savoir, et que maintenant, on ne peut plus faire les erreurs qu'on faisait par le passé. Or, c'est faux. On fait les mêmes erreurs et on porte au nu des artistes qui sont des artistes, à mon avis, totalement secondaires et souvent très académiques, notamment dans le monde de la photo. Je ne veux pas citer de nom, mais par exemple, la photographie allemande qui atteint des cotes exceptionnelles est une photographie extrêmement académique. La photographie française est bien plus intéressante, bien plus inventive.
Finalement, tout l'enjeu de ce lieu où nous nous trouvons ce soir, Alain Fléchère, le Frénois, cette école que vous avez créée, c'est de faire naître et de faire le tri parmi ces jeunes talents nouveaux. Peut-être que cette foi dans l'avenir de la création, vous y croyez encore?
Ah, j'y crois beaucoup, sinon je ne serais plus là. Il y a longtemps que j'aurais pu prendre ma retraite. Je continue d'être fasciné par ce que font les artistes d'aujourd'hui, ces jeunes qui viennent au Frénois, qui m'émerveillent toujours. Quand je les reçois au début de l'année, qui me racontent leurs projets, parfois je me demande si ça va être bien. Et la surprise est toujours bonne. Quand ils exposent leurs œuvres, je trouve qu'elles sont magnifiques.
Merci Alain Fléchère. Nous nous retrouvons demain pour parler plus en détail du Frénois.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Anaël Pijat avec Alain Fléchère. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Marc Garvenès, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.